Bonjour, soyez la bienvenue. Le message qui va suivre vous est proposé par la Mission mondiale d'évangélisation Jésus-Christ et la réponse. Il a pour thème « Comment réussir ?» Ce message a été enregistré à la chapelle Rehoboth, centre chrétien pour producteurs de preuves, église principale de la mission JCR. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez équipés pour relever vos défis et encouragés à travailler à la réalisation de votre destinée. Sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute de la révérende M. Piedi Patricia. Comment réussir? Alors, nous avons tous besoin de développer certaines qualités, certaines aptitudes dans notre vie si nous voulons réussir. Alors, nous allons découvrir plusieurs qualités. Il y a une que nous allons découvrir, ou encore que nous allons redécouvrir, que nous connaissons peut-être pour la plupart d'entre nous, c'est la maîtrise de soi. Qui a une idée de ce qu'est la maîtrise de soi? Levez les mains pour ceux qui ont une idée de ce qu'est la maîtrise de soi. Ok, donc on n'est pas très nombreux à savoir ce que c'est que la maîtrise de soi, parce qu'il y a à peine 4 ou 5 mains. Ok, bon, peu importe. La Bible dit, et j'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Proverbes, Proverbes 25-28. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Alors voilà un verset qui est intéressant, que nous devrions prendre au sérieux. La Bible dit, une ville forcée et une ville qui est sans muraille ressemble en fait à un homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc si aujourd'hui nous n'avons pas la qualité que l'on appelle la maîtrise de soi, nous sommes appelés quelque part à être des personnes ou encore ressembler à des personnes qui ressemblent à une ville qui est forcé et qui n'a pas de muraille, donc sans protection. Cela désigne des personnes qui n'ont pas de protection. Cela désigne des personnes qui sont sensibles, des personnes en fait qui ont une grande ouverture à la facilité ou encore à la médiocrité, ou des personnes qui sont ouvertes à des dangers permanents parce qu'elles n'ont pas de muraille et que ce sont des personnes qu'on peut facilement atteindre. Et si nous voulons être des personnes qui réussissons, il va falloir que nous apprenions à avoir de la maîtrise. Je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile, mais sachez que la maîtrise ne s'obtient pas d'un seul coup. La maîtrise, c'est un processus. Ok? Alors, le plus grand ennemi que nous avons à maîtriser ne se trouve pas en dehors de nous, ni dans l'adversité des circonstances, mais en nous-mêmes. Notre plus grand ennemi n'est pas ailleurs, si ce n'est au-dedans de nous-mêmes. Et donc, pour régler ce problème ou pour pallier à cette difficulté, il va falloir que nous apprenions à cultiver la maîtrise si nous voulons être des personnes équilibrées. Donc, en fait, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que la maîtrise n'est pas donnée à n'importe qui. Ou encore, la maîtrise n'est pas quelque chose que nous recevons de notre naissance. La maîtrise n'est pas un don particulier qu'on donne à certaines personnes et qu'on n'en donne pas à d'autres. La maîtrise, c'est quelque chose que nous devons tous acquérir. Personne ne naît avec la maîtrise. Nous sommes appelés à devenir des personnes qui se maîtrisent. Donc, il n'y a pas à dire que si cette personne se maîtrise, c'est parce que Dieu a un amour particulier pour elle. Si telle autre se maîtrise, c'est parce qu'elle a reçu le don depuis sa naissance. La maîtrise n'est pas un don inné. La maîtrise est une acquisition. Pour être des personnes qui ne sont pas facilement influençables ou des personnes qu'on n'atteint pas facilement, il faut que vous compreniez qu'il y a un élément dans votre vie qu'il faille développer, c'est la maîtrise de soi. Je sais que beaucoup de personnes estiment que ce n'est pas nécessaire, mais je vous assure que la maîtrise de soi est quelque chose de nécessaire. Mais pour être capable d'être une personne qui se maîtrise, il va falloir que nous développions une chose, être capable aussi d'être dirigé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de maîtrise de soi quand il n'y a pas de capacité à être dirigé par le Saint-Esprit. Il faut que vous appreniez tous ces éléments pour être des personnes qui réussissent. Et je vous assure que si vous ne comprenez pas ça, il y a des choses que vous n'allez pas régler dans votre vie. Lorsqu'on parle de maîtrise de soi, comprenez que si Dieu nous donne la capacité de maîtriser notre vie, comme nous l'avons vu si bien dimanche, la maîtrise ne se limite pas qu'au corps, ça atteint tous les niveaux de notre vie. Ça touche notre corps, ça touche notre esprit, ça touche notre âme. Tous les autres dons qui pourront être suivis ou toutes les autres aptitudes qu'il va falloir développer dans votre vie dépendent en grande partie de la maîtrise. Parce que c'est la maîtrise qui nous amène quelque peu à dominer sur le péché. Et n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes peut-être tous convertis, nous avons tous accepté le Seigneur, nous avons tous la manifestation des dons du Saint-Esprit, mais l'une des choses qui fait en sorte que nous n'évoluons pas, qu'on le veuille ou non, c'est la pratique du péché. Mais la pratique du péché vient non pas parce qu'on a envie quelquefois de pécher, mais parce que quelquefois on n'arrive pas à maîtriser nos membres qui nous conduisent au péché. Et donc, si nous voulons réussir, nous devons apprendre à développer en nous la maîtrise de soi. Et comme je le disais, c'est un processus. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit qui nous est donné quand on parle de la parole de sagesse ou de la parole de connaissance. Ce sont des habitudes que nous allons apprendre à développer. Donc, quand on parle de maîtrise, c'est la capacité que nous avons à dominer sur nos pensées, sur nos actions, sur nos désirs, sur notre volonté, dans la vision unique de ressembler au Seigneur et d'accomplir sa volonté. Pourquoi certains d'entre nous sommes amenés à pécher? C'est parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas appris à maîtriser nos pensées. S'il nous arrive, comme nous l'avons vu dimanche, je ne peux pas me passer de dépenser de l'argent quand je suis face à la boulangerie parce que j'aime ce gâteau, ça c'est un manque de maîtrise. Il va falloir apprendre à se dire, peu importe que le gâteau soit là, que ce soit mon péché mignon, il va falloir que je domine sur ce péché mignon si je veux atteindre certains de mes objectifs. Parce que le tout, ce n'est pas d'accepter le Seigneur, le plus important, c'est d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés avec le Seigneur. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous ne réussissent même pas dans leur propre vie, mais même dans leur commerce. Pourquoi certains n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Pourquoi certains parmi nous n'arrivent pas à devenir riches? Simplement parce qu'ils manquent de maîtrise de soi. Vous voulez en même temps bâtir, mais en même temps jouir de la vie. Mais vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser. Si votre objectif, c'est d'obtenir un certain quota financier durant toute une année, il va falloir donc fermer les yeux sur certains éléments dans votre vie. Mais pour y arriver là, cela va demander un exercice de votre part qu'on appelle la maîtrise. Vous voulez atteindre un objectif, mais vous ne pourrez pas l'atteindre si vous ne vous faites pas violence. Qui va faire violence pour vous? Personne. Dieu ne fera jamais violence pour vous. Pourquoi? Parce qu'il vous en a donné là. Capacité. Et l'une des choses qui fait en sorte encore que nous ne réussissons pas, ou si nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs, c'est parce que nous sommes dispersés. On veut tellement de choses à la fois, mais on n'a même pas été encore capable de maîtriser l'essentiel dans notre vie. Donc, nous ne pourrons pas réussir. Alléluia. À supposer que vous êtes une personne qui est encore à l'école, comme on le voit. Par exemple, vous êtes tombé amoureux d'un jeune homme ou d'une jeune fille, mais vous êtes encore sur le banc de l'école. Et vous vous engagez, vous allez voir vos parents qui vous disent « je veux me marier ». Parce que quand on parle de banc de l'école, il y a des niveaux. Hein. Imaginez un enfant qui est acquis en quatrième qui vous dit « je veux me marier ». Franchement, la première chose qu'on a envie de lui faire, c'est lui donner une bonne raclée. Parce qu'on se rend compte qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Mais quelqu'un qui se trouve à l'université, qui a un minimum de niveau à l'université, ça on peut lui dire « bon d'accord, fils, fille, on peut t'autoriser, mais attention ». Ce qui fera ton succès, c'est ta capacité à être capable de gérer, de maîtriser ce que tu vas faire. Parce qu'être marié et aller à l'école, papa, ce n'est pas donné. Maman, ce n'est pas donné. Je sais ce que c'est. Parce que quand je me suis mariée, j'étais à la fac. Et gérer l'école et gérer le mariage, c'est difficile. Il faut avoir une force de caractère, il faut avoir une très grande maîtrise de soi. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Donc cela veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde, sauf aux personnes qui ont décidé de dominer sur leur propre existence. Et quand je parle de disperser, c'est que vous ne pouvez pas en même temps vouloir aller à l'école, et en même temps vouloir vous marier, et en même temps vouloir être riche. Il faut se donner des priorités. Et la maîtrise de soi n'est pas cette capacité qui vous permettra de gérer tout ça, non. Parce que la maîtrise ne vous amène pas à gérer trois éléments différents, mais elle vous amène à gérer élément par élément. Donc faisons attention et comprenons qu'en tant que chrétiens, nous avons l'obligation d'être des personnes qui se maîtrisent. Nous l'avons vu tout à l'heure au travers du verset. Pour ceux qui ne se maîtrisent pas, nous ressemblons à une ville qui n'a pas de muraille, qui n'a pas de protection et qui peut être forcée à tout moment. Aujourd'hui, nous parlons de la prospérité, nous parlons du royaume, nous parlons de la bénédiction. Mais comment arriver à la bénédiction? Ça ne se fait pas de façon dispersée. Il va falloir devoir développer de la maîtrise. Si nous voulons réussir, nous devons être capables de contrôler nos pensées. Parce que nos pensées vagabondent n'importe comment, on les laisse vagabonder. Non, que dit Dieu à notre sujet? Même si nous voulons agir, que dit Dieu à notre sujet? Même si nous voulons parler, est-ce que Dieu nous autorise à parler? Nous devons arriver à la dimension où nous pouvons nous retrouver au milieu des personnes, même si le sujet est intéressant, être capable de ne pas parler. Si Dieu ne nous autorise pas à parler. Parce que Dieu ne nous appelle pas à parler tout le temps et à dire tout ce qu'on veut. Quelquefois, Dieu nous empêchera de parler. Si Dieu vous a conduit dans un jeûne où vous ne devez pas parler, comment allez-vous réussir? Pourquoi Dieu vous conduira-t-il dans un jeûne pour ne pas vous permettre de parler? Simplement pour vous apprendre à écouter. Mais vous ne pourrez jamais écouter. Vous ne pourrez jamais être ce genre de personnes donc, qui auront besoin et qui s'appuieront sur l'écoute pour pouvoir réussir. Jamais vous ne réussirez si vous n'apprenez pas. Et cela demande une maîtrise. C'est pourquoi vous entendez, oui, mais j'ai décidé, mais après. Oh Seigneur, vraiment, j'ai décidé de prendre du temps, je vais méditer chaque jour. La personne commence à faire un programme, mais ne réussit pas. Pourquoi? Il n'y a pas de maîtrise. Au moment où il faut lire, c'est au moment où vous sentez la nécessité d'aller manger. Au moment où il faut lire, c'est là où même si l'émission favori passe, vous oubliez la méditation, vous allez suivre l'élément favori. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous canaliser. Si l'objectif de cette année, comme nous le voyons aujourd'hui, si l'objectif pour vous cette année, c'est de vous marier, canalisez-vous sur le mariage. Mais n'allez pas ailleurs. Sauf si Dieu vous donne une orientation ailleurs. Parce qu'à la fin de l'année, vous allez pleurer. Parce que vous n'aurez rien fait pour avoir voulu faire beaucoup de choses à la fois. S'il n'y a que deux objectifs dans votre vie, canalisez-vous sur ces deux objectifs. En dehors du fait que Dieu vous dise de faire autre chose. Mais si Dieu ne vous dit rien en dehors de ces deux objectifs, canalisez-vous sur ces deux objectifs. Maîtrisez votre cœur, maîtrisez vos pulsions, maîtrisez vos émotions et foncez sur ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous savez, il y a une chose que j'ai découverte. Pour être heureux, il faut être libre. Nous voulons tous être heureux, n'est-ce pas? Pour être heureux, il faut que nous soyons libres. Mais on ne peut pas être libre si on est dispersé. Quand on est dispersé, quand on est préoccupé, on n'est pas libre. Alors pour être libre, il va falloir qu'on évite d'être trop préoccupé. Il va falloir distinguer les objectifs qui sont importants. Et quand nous avons distingué les objectifs importants, alors nous commençons à être dégagés dans notre être intérieur. Nous sommes libres en nous-mêmes et nous pouvons nous engager sur une voie dont on est sûr d'en sortir vainqueur. Parce que ça ne sert à rien aussi de rentrer dans une affaire sans être sûr que Dieu nous sortira de là vainqueur. Alléluia. Donc attention, développer la maîtrise consiste à faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. Alléluia. Attention, quand on dit que vous êtes une personne qui te maîtrise, c'est parce que vous êtes capable de faire ce que vous devez faire et non ce que vous voulez faire ou ce que les autres vous imposent de faire. C'est à cela qu'on reconnaît la maturité de quelqu'un. C'est à cela qu'on reconnaît la grandeur de quelqu'un. Avoir la capacité de faire ce qu'on doit faire. Donc lorsque la Bible dit « la parole vous rendra libre », ce n'est pas la liberté dont vous pensez que « non, je suis libéré du péché ». C'est vrai, mais sachez qu'il y a la liberté, c'est-à-dire la capacité que nous avons à utiliser notre propre personne pour faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit « je vous rends libre », vous êtes libre, la parole vous rendra libre, elle vous affranchira, ce n'est pas que du péché, mais de la capacité à être et de ne plus se faire influencer pour prendre des décisions. Quand on prend des décisions, on les prend seules et on les prend en fonction de notre cœur. Si maintenant nos décisions ne sont pas prises en fonction de notre cœur, alors on commence à pleurer. Et on commence à accuser les autres. Et on dit, si je n'ai pas réussi, c'est à cause des autres. Mais la liberté que Dieu nous donne, c'est qu'il nous met la vie et la mort entre nos mains. Et il nous dit, choisis la vie. Et quand tu choisis la vie, c'est un choix. Et ce choix te rend libre. Tu n'es pas oppressé, tu n'es pas opprimé. C'est un désir volontaire. Et ce désir volontaire te conduira là où tu veux que tu sois conduit et t'amènera à réussir. Parce que c'est quelque chose de voulu. C'est pourquoi on dit, ce que tu veux, tu l'obtiens. Donc lorsque la Bible dit... la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas que du péché. Vous avez déjà été libre depuis que Christ est mort sur la croix. Dès que vous avez accepté Christ, le péché a été ôté. Mais l'autre dimension de liberté dans laquelle Dieu veut vous conduire, c'est d'apprendre à assumer votre part de responsabilité. Parce qu'il sait que si vous êtes d'accord pour l'objectif que vous vous êtes assigné, que vous avez choisi de faire, alors vous êtes sûr de réussir. Mais si c'est quelque chose de contraignant, vous le ferez parce qu'il faut le faire, mais vous n'en trouverez pas la jouissance et le plein bonheur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le bonheur est attaché à la liberté. Et quand on parle de maîtrise, on parle de bonheur. Quelqu'un qui maîtrise sa vie, quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui est heureux. Parce qu'il est capable de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et il en assume les conséquences, quel que soit le choix. Est-ce que ça va? Si nous voulons réussir, apprenons à maîtriser les événements. Apprenons à maîtriser notre vie. Apprenons à maîtriser les circonstances de notre vie. Apprenons à dominer sur le péché. Ce n'est pas la prière seulement qui nous aide à dominer sur le péché. C'est notre capacité à dire non au péché qui nous aide à nous en sortir. Ça, il faut que nous le comprenions. Ce n'est pas parce que nous allons dire au nom de Jésus, je chasse tout esprit de faiblesse, de fatigue. Ok, tu l'as chassé, mais d'un point de vue pratique, qu'as-tu fait pour dominer les choses? Le tout n'est pas de dire je chasse l'esprit de faiblesse ou de fatigue. Le tout est de pouvoir gérer son temps de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans un état de fatigue chronique au point où on n'est plus capable d'accomplir la volonté de Dieu ou d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. On met tout au niveau de la prière, mais on oublie qu'on a un rôle à jouer qui est de poser un acte. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, après avoir écouté votre message sur la discipline, je voudrais savoir, Dieu m'a parlé il y a quelque temps et m'a demandé de me lever à 5 heures du matin. Mais depuis un moment où je n'arrive pas à me lever à 5 heures du matin, est-ce que Dieu m'a parlé ou Dieu ne m'a pas parlé? Je lui ai dit, je ne saurais vous dire parce que je n'étais pas là. Mais dans le cas où Dieu vous aurait parlé, c'est que Dieu vous a parlé. Mais si vous n'arrivez plus à vous lever à 5 heures du matin, ce n'est pas le diable. C'est parce que vous n'avez pas encore réussi à maîtriser votre emploi du temps au point de gérer votre temps de façon à ce que vous dormiez tôt pour qu'à 5 heures du matin, vous soyez debout. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour vous, mais c'est vous. Il va falloir donc, par conséquent, maîtriser votre temps. On peut prophétiser autant de fois qu'on peut prophétiser dans votre vie, mais sachez que la prophétie, c'est vous qui la mettez en pratique, qui la mettez en marche. Donc même si on dit vous êtes appelé à devenir riche, la question est de se poser, Seigneur, comment vais-je devenir riche? Que faut-il que je fasse? Et si Dieu dit, lève-toi tous les jours à 5 heures et fais ceci, levez-vous tous les jours à 5 heures. Si maintenant il arrive que vous ne vous leviez pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Et si vous n'êtes pas riche, n'accusez pas le diable, c'est vous. Alléluia. Amen. Le deuxième élément que nous allons devoir développer si nous voulons être des personnes qui réussissons, c'est l'endurance. L'endurance. Face aux défis, face aux difficultés, face à l'adversité. Maintenant, il va falloir que vous compreniez que endurer quelque chose, vous allez l'endurer de deux façons. Soit par la soumission, soit par la résignation. Parce que quand les gens entendent « j'endure », c'est seulement être là, c'est se booster, s'encourager, être là, j'endure. Vous savez, si vous allez dans le sens de la soumission, beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas voir le bout du tunnel parce qu'elles n'ont jamais accepté l'endurance. Dieu peut vous présenter l'endurance de plusieurs façons. C'est lui qui est Dieu. Et n'oublions pas que tout ce par quoi nous passons, Dieu nous le permet dans notre vie afin de former notre caractère. N'oubliez jamais ça dans votre vie. Donc si Dieu fait en sorte qu'une situation perdue, c'est qu'il veut peut-être développer en vous de l'endurance. Cette endurance va se manifester peut-être par de la soumission. Les gens qui n'aiment pas se soumettre aux autorités, alors vous allez apprendre à vous soumettre à l'autorité. L'autorité n'est pas forcément l'autorité ecclésiastique, mais vous avez aussi des autorités comme vos époux, vos femmes, comme vos patrons au bureau. Mais tout ça, ce sont des autorités. Quelquefois, Dieu vous dira, soumets-toi. Même si tu n'es pas d'accord, soumets-toi. Même quand tu ne comprends pas, soumets-toi. Et c'est là quand vous dites aux gens, non, fais, ou sœur, soumets-toi. Ah, non, hein. Mais on oublie qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que nous devons nous soumettre aux autorités qui sont les nôtres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et que toute autorité est établie par Dieu. Le plus important pour vous, c'est de vous soumettre avec l'attitude que Dieu vous demande d'avoir. Parce qu'une soumission qui n'est pas volontaire n'est pas de la soumission, c'est de la rébellion. Et là, les portes se ferment. Il se peut que vous ne compreniez pas votre partenaire, que vous dites, mais mon Dieu, c'est décidé, on a fait, et que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez. Ça peut arriver. Mais Dieu peut dire, pour former votre caractère, supporte. Supporte. Mais si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait dans votre vie, vous allez dire, Dieu ne me comprend pas. Et vous allez gérer la situation selon vous. Et vous n'aurez jamais rien compris de ce que Dieu veut faire dans votre caractère. Et l'épreuve va constamment revenir jusqu'à ce que vous acceptiez de vous soumettre. Ah, je te dis, sœur, je suis forte. Hein, je te dis, depuis là, je supporte. Ton supporter, là, c'est quoi? C'est subir ou c'est de la soumission volontaire à la volonté de Dieu? Parce qu'attention, hein, je supporte, là, en général, c'est subir. Dieu ne vous appelle pas à subir. Je le répète, Dieu nous appelle à la liberté. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Ce qui est fait du fond du cœur est généralement source de bénédiction. Ce qui est fait par contrainte ne nous rapporte jamais rien. Sinon, l'aigreur, l'amertume, le ressentiment. Est-ce que ça va pour tous? Donc, lorsque Dieu dit « passe par le chemin de l'endurance », ça peut être « soumets-toi simplement ». Comme ça peut être la résignation, oublie d'abord. Seigneur, tu as dit, tu m'as promis que je devais faire ceci. Seigneur, tu as dit, tu as déclaré que je devais arriver à tel niveau. Seigneur, 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 et ainsi de suite, et tout en Seigneur. Et Dieu vous regarde, et rien n'évolue, rien ne bouge, et on est là, Seigneur. Et après, on dit, puisque c'est comme ça, je chute un peu. Alors Dieu vous dit, chutez même beaucoup. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Quand vous aurez fini de chuter, qui souffre? C'est vous. Parce que même quand vous revenez en Christ, Dieu vous remet au même niveau à partir duquel vous êtes tombé. Donc vous n'évoluez pas. Hein? Vous revenez au même niveau. Et tant que vous retardez les choses, et vous retardez la bénédiction, vous retardez votre accomplissement, et vous pouvez ne pas voir la gloire de Dieu. Il y a des fois où Dieu te dira, laisse tomber. C'est la façon pour lui de t'amener à endurer une épreuve. Il te dira, lâche. Toi, tu diras, non, hein, Seigneur, non. Hein. Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La Bible nous dit que Dieu ne ment pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu fait ces choses en son temps. Et lorsqu'il le fait en son temps, c'est parfait. Donc, un temps de résignation ne veut pas dire que Dieu t'a oublié ou que Dieu n'a pas l'intention d'accomplir ce qu'il a dit à ton sujet. Mais il y a une chose qu'il veut développer dans ta vie. Il y a une aptitude qu'il veut développer dans ta vie. Mais pour que cela soit parfait, il faut que tu te résignes. Et cela, ça nous amène à discerner la volonté de Dieu. Il faut que tu te résignes. L'endurance pour moi ne sera pas la même endurance que pour la sœur Claudia. À la sœur Claudia, Dieu dira, soumets-toi. À moi, il me dira peut-être, résigne-toi, abandonne, oublie. Et au temps opportun, je vais ranimer la flamme. Mais combien parmi nous, nous passons à côté de la grâce de Dieu parce que nous refusons d'emprunter ou de développer cette aptitude dans notre vie? Et j'aimerais que nous lisions pour cela Éphésiens 6, 10, à partir du verset 13. Et ça, j'aime bien ce passage parce qu'il illustre très bien le problème de l'endurance. La Bible dit, au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit, au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Donc, en fait, la Bible nous exhorte à être puissants, mais par la force souveraine de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu va nous diriger. Seul Dieu nous rendra puissants, pas nous. Et pour cela, il dit que nous devons revêtir les armes de Dieu afin de tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Et la Bible nous réencourage en disant, prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenez bon. Pourquoi la Bible nous présente cela? Il y a des situations en fait qui ne pourront être réglées que par nos attitudes. Si nous avons la bonne attitude, le problème va se régler. Si nous avons la mauvaise, le problème va empirer. Et la Bible essaie de nous faire comprendre que la majorité des choses auxquelles nous sommes confrontés ne relèvent pas du monde physique, elles relèvent du monde invisible. Et par conséquent, nous devons adopter ou encore nous armer des armes que Dieu nous donne. Et les armes que Dieu nous donne, au-delà de la parole, du zèle, il y a aussi ce genre d'aptitude. Développer la maîtrise, développer l'endurance. Ce sont des armes que Dieu met à notre disposition pour être capable de tenir bon dans des moments difficiles. Mais nous, on ne voit que la parole de Dieu, le Saint-Esprit et tout le reste. Et c'est pourquoi souvent, quand on parle de ce genre d'éléments comme la maîtrise, l'endurance, la persévérance, les gens ne prennent pas ça à cœur parce qu'ils estiment que ce n'est pas assez spirituel pour nous permettre de réussir. Mais ce sont des attitudes qui étaient en Christ, que Christ avait revêtues et qui étaient pour lui des armes qui l'ont permis de réussir. Vous voulez réussir, mais vous ne voulez pas adopter les armes qu'il faut adopter. Donc, vous n'êtes pas face à des hommes. Vous ne luttez pas face à des hommes, vous luttez face à des esprits. Et il y a des esprits qui vont pouvoir changer de côté par rapport à certaines attitudes que nous développons. Pourquoi la Bible dit « résistez au diable, il fuira loin de vous ». Ça veut dire qu'il y a une attitude à développer, la fermeté. Je suis ferme dans ce que j'ai décidé de faire avec le Seigneur. Je suis ferme dans mon engagement avec le Seigneur. C'est la fermeté qui éloigne le diable de devant nous. Mais pourquoi aujourd'hui, si on vous dit « utilisez l'endurance », vous allez estimer que l'endurance n'est pas aussi valable que le baptême dans le Saint-Esprit et tout le reste? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. C'est le Saint-Esprit qui est le stratège. C'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il y a lieu de faire. Et si le Saint-Esprit nous dit « adopte telle attitude », adopte-la. Parce que c'est l'arme appropriée pour le moment. Ou encore pour l'instant présent. Donc nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit. Si Dieu dit « c'est l'endurance, c'est l'endurance », tu n'as pas besoin de prouver à ton ennemi que tu es déjà. Mais la seule façon de lui démontrer ta puissance, c'est d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Endure l'épreuve, soit par la soumission, soit par la résignation. Est-ce que ça va? Voilà un autre élément, la persévérance. Ça, c'est le mot des chrétiens. Frère, je persévère. Sœur, ça va? Oh, ma chère, je te dis, mais je persévère. L'Éternel est vivant. N'est-ce pas? C'est notre mot, c'est notre slogan. C'est l'une de nos armes par excellence, la persévérance. Alors, nous avons aussi besoin de persévérance pour réussir, parce que c'est la persévérance qui nous donne de continuer et de faire ce que nous avons décidé de faire. OK? Mais la persévérance n'est pas passive, elle est active. La persévérance n'est pas passive. Ce n'est pas parce que vous dites « je persévère » qu'en fait vous persévérez. Vous pouvez avoir tout abandonné, mais vous dites « vous persévérez » parce que c'est devenu un slogan chrétien. Vous dites « je persévère » parce que vous êtes là en vous disant « bon, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort de Dieu. » Je suis désolée. Toutes ces aptitudes relèvent de nous. C'est notre responsabilité que de développer ces habitudes, que de développer ces aptitudes dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Tout cela, ce sont des processus que nous allons devoir apprendre, que nous allons devoir développer, même au travers de l'adversité et dans la vie de tous les jours. Je persévère, c'est pas ça persévérer. C'est pas de dire « je persévère » qui prouve que vous persévérez. C'est l'attitude que vous développez dans votre persévérance. Continuez-vous à prier quand vous dites « vous persévérez » ou vous êtes assis et vous attendez que les choses viennent vers vous. Si c'est ça votre persévérance, ce n'est pas de la persévérance et de l'oisiveté. Faites attention à la nuance des mots. Vous êtes oisif et vous n'attendez rien de Dieu. Persévérer, ce n'est pas un mot, c'est une action. Si je ne vois pas les choses arriver, je continue à prier. Je continue à louer le Seigneur et je continue à le servir envers et contre tout. Donc attention, quand vous dites « je persévère ». Alléluia. Espérance contre toute espérance et sans faiblir dans la foi, Abraham tint ferme dans sa confiance en l'Éternel. Après des années d'attente, il obtint finalement l'enfant promis. 25 ans pour Abraham. Il a persévéré. Parce que le fruit de la persévérance, c'est l'obtention de notre miracle. S'il n'y a pas de miracle, la persévérance n'est pas encore. Soit on s'est assis, soit on fait autre chose. Mais si Dieu a dit, Dieu nous conduira. Est-ce que ça va pour nous? Un autre élément que nous devons développer dans notre vie, c'est la constance. Je suis constant. J'ai décidé. Je me maintiens dans ce que j'ai dit. On monte, on descend, je ne bouge pas. Quelqu'un peut me dire X, Y, je suis là. La constance. Et c'est souvent une attitude qui manque à beaucoup de chrétiens. Malheureusement. On aime la persévérance, mais on ne sait pas que la persévérance conduit à la constance et à la persistance. Je me maintiens. La constance est une force de caractère qui consiste à rester fidèle, déterminé et à résister à la tentation avec un cœur partagé. C'est une force de caractère qui consiste à rester fidèle. Je suis fidèle à mes engagements. Déterminé. Peu importe, je suis là. Et à résister à la tentation d'avoir un cœur partagé. Aujourd'hui, Dieu te dit X. Demain, Dieu t'a dit Y. Il y a un problème. Ou c'est Dieu qui te parle, ou c'est quelqu'un d'autre qui te parle. Et même si Dieu te parle plusieurs fois, en général, tout ce que Dieu te dira convergera vers une seule chose. Mais si ce que Dieu te dit a beaucoup de routes, au point de te trouver sur une seule voie, tu te retrouves sur sept voies, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être fermes, apprendre à être fermes. J'ai décidé. Vous allez développer une entreprise privée et vous allez dire, je dois réussir. Vous vous engagez, vous mettez des fonds dans cette entreprise et vous dites, je vais réussir. Finalement, vous avez des parents, vous avez des amis qui viennent et qui viennent vous voir. Ils vous disent, je veux ça, je veux ça. Dans votre cœur, vous allez distribuer, vous allez donner. Et quand vous allez donner, à la fin, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien gagné. Dans la chaleur de la situation, vous allez dire, le diable est contre moi, je n'ai pas réussi, le marché, ça ne marche pas avec moi, ça ne réussit qu'aux autres. C'est faux, ça ne réussit pas qu'aux autres. Le problème, c'est que vous n'êtes pas ferme dans vos décisions. Vous avez décidé de marcher, d'ouvrir une entreprise, peu importe la parenté, les amis, les frères en Christ, quand ils viennent, ils ne viennent pas dans la vision de vous aider. Ils viennent pour tirer profit de vous. Quand je parle de ça, ce n'est pas dans le sens qu'ils ont un mauvais cœur. Mais c'est dans le sens que si vous avez une entreprise, vous vendez du riz, il va dire, ah, je vais aller voir ma soeur. Je n'ai pas envie de dépenser 5 000, je vais plutôt dépenser mes 5 000 pour une robe. Donc, je vais aller voir ma soeur, je m'en vais acheter le sac de riz. Donc, quand la personne viendra acheter le sac de riz vers vous, elle ne tiendra pas compte de vos réalités. Il faut que vous lui donniez le sac de riz. Vous donnez. À la fin, vous n'avez plus rien. Ne dites pas que vous avez échoué. Si vous avez échoué, c'est vous-même. Vous n'avez pas tenu ferme quant à votre résolution. Votre résolution, c'est de faire votre entreprise. Par conséquent, vous devez obtenir votre bénéfice et vous devez créer un fonds qui vous permettra de réussir dans votre entreprise. Donc, si ça ne marche pas, c'est vous-même. Parce que dans les affaires, il n'y a pas les parents. Il n'y a que le client. Et même si on doit faire une dérogation aux parents, 5%, pas plus. Si vous allez 10, 15, 20%, vous êtes sûr de ne jamais réussir. Et ne dites pas que le diable est contre vous. C'est vous-même qui êtes à l'origine de votre propre échec. Vous avez un mariage. Vous êtes engagé dans le mariage. Tout le monde a célébré votre mariage avec faste. Et vous dites, il faut que je réussisse. Donc, j'ai décidé d'être la meilleure épouse qui soit. J'ai décidé d'être le meilleur mari qui soit. Donc, vous développez des habitudes, que vous développez des habitudes familiales qui sont vôtres. Maintenant, un parent vient. Il te dit, ça c'est quoi? Dans notre famille, on ne fait pas les choses comme ça. Quoi, la femme que tu as épousée t'a mangé le cœur? Et toi, parce que tu as écouté ta famille, tu changes de comportement. Et après, ta famille n'atteint pas les objectifs que tu t'as assignés. La belle famille que tu voyais ne voit pas le jour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu ferme. C'est quand ta famille vient, et ils viennent faire de toi leur prolongement familial. Dieu n'a jamais dit que nous sommes le prolongement familial de nos pères ou de nos mères. À chaque famille, un destin. À chaque famille, une vision. Par conséquent, si tu développes des habitudes que tes parents estiment être pour les habitudes des blancs ou quand t'as mangé le cœur, ça n'engage que. Parce que quelquefois, il faut se poser la question, oui, quand il m'a dit de faire, regardez l'issue de leur famille avant de changer, avant de vous laisser influencer. Quelqu'un dont la famille est en catastrophe divisée, Vous pensez que c'est quelqu'un qu'il faut écouter, même au nom de la famille. Faisons attention. Et à cause d'un manque de fermeté, manque de caractère, on s'embarque dans une affaire qui va nous produire aussi de la catastrophe. Et on dira, Dieu n'était pas avec moi. Qui a dit, Dieu était avec toi? Il était même bien là. Il t'observait tout en te disant, attention ma fille. Mais comme l'influence parentale était beaucoup plus grande et plus importante que Dieu, tu t'es retrouvé par terre. La constance. Peu importe ce qu'on me dira, je reste là. Oh, il faut donner les cotisations familiales. Donne. Mais ne t'étrangle pas. Parce que quand tu seras étranglé, la même famille là, ne sera pas là-haut pour te donner le pain dont tu as besoin. Donc, puisque tu as des objectifs, maintiens tes objectifs. Il y a une marge d'épargne que tu décides d'épargner, maintiens-la. Si c'est la marge d'épargne pour la famille, tu la maintiens. Qu'ils viennent, que 10 personnes autres viennent, la marge est déjà dépassée, tu t'arrêtes là. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Qui va bâtir ta vie si ce n'est que toi-même? Il faut que nous fassions attention. Pourquoi certaines familles se désagrègent? Pourquoi certains couples se cassent? Parce que ce qu'on décide dans notre chambre n'est plus appliqué à l'extérieur. Manque de fermeté. Ce qu'on décide de faire avec Dieu n'est plus appliqué parce qu'on a honte que les gens reconnaissent que nous sommes chrétiens. Même pour ceux qui sont mariés, vous avez une vie avec Dieu. Si Dieu dit ça, restez ferme dans ce que Dieu vous a dit, tout en demandant à Dieu la sagesse par rapport à l'attitude que vous devez développer vis-à-vis de votre partenaire pour l'amener à comprendre ce que Dieu vous a demandé de faire. Mais vous vous maintenez dans ce que Dieu a dit si vous estimez que c'est Dieu qui vous l'a dit. Mais si vous changez par amour, soi-disant, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la mort. Si vous changez par amour, soi-disant, mais après, quand ça capote, c'est là où vous asseyez, vous dites, « Oh, si je savais. » N'est-ce pas? Si je savais, oh, mais c'est fini. Si je savais. Après. Ou tu te lèves et tu es fort, tu recommences à partir de là où tu as échoué, ou tu te laisses aller et tu meurs pour de bon. Le choix est entre vos mains. C'est pourquoi la Bible dit à celui qui est ferme dans ses dispositions, Dieu assure la paix parce qu'il met sa confiance en lui. La Bible dit dans Habakkuk 2:4, son cœur s'enfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra en tenant ferme. Et la Bible continue avec Jacques 1 de résister au diable et il fuira loin d'eux. Bon. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous réalisez la nécessité pour nous de développer la maîtrise de soi? Je me maîtrise. J'ai décidé que ma vie est programmée ainsi. Qu'on vienne me dire ou qu'on ne vienne pas me dire, les choses sont ainsi faites. Parce que personne ne réalisera ma vie comme moi-même. Personne ne s'occupera de mes enfants comme moi-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dira, « Ah, mais pourquoi tu fais ça à tes enfants? Moi, je n'ai pas fait à mes enfants. » Puis, d'accord, ça dépend des contextes. Il peut arriver que le conseil qui vous est donné, la personne a eu une expérience, ou plusieurs ont fait cette expérience et ont vu le même résultat. D'accord. Mais attention, ce que vous estimez avoir reçu de Dieu pour l'éducation de vos enfants ne permettez à personne de l'influencer. Ce que vous avez reçu de Dieu concernant votre couple ne permettait à personne de l'influencer. Ce que vous avez reçu de Dieu concernant votre vie professionnelle, votre comportement au bureau, ne permettait à personne de vous influencer. Parce que tous ceux qui s'agglutinent avec vous et qui essaient de changer votre vision, ce sont ceux-là qui en général veulent prendre votre place. Ou qui ne sont pas d'accord de votre réussite. Ou encore qui n'ont rien compris de la vie et vont vous amener dans le trou. Faisons attention. 2008, c'est l'année du recommencement. Donc Dieu va nous amener à refaire des choses dans notre vie. Dieu va nous ramener des événements ou des situations dans notre vie, des situations que nous avons perdues à cause peut-être de notre ignorance, à cause de notre malhonnêteté, mais Dieu ramène les choses à l'ordre. Alors puisque Dieu ramène les choses dans l'ordre, il va falloir que nous aussi, nous nous mettions en ordre et que nous accomplissions ce qu'il y a lieu d'être. Pour cela, on développe la maîtrise. Pour cela, on développe l'endurance. Pour cela, on développe la constance. Soyons sérieux. Si tu étais du genre, aujourd'hui, tu as une fiancée, demain, tu as une autre, papa, reste tranquille. Ou tu en as une et tu vas jusqu'au bout, ou tu n'en as jamais eu. Et n'embête pas les pauvres sœurs. Ou sœurs en Christ, n'embête pas les pauvres frères. Ils sont tranquilles dans leur coin, ne les embête pas. Oh, aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Demain, Dieu n'a plus parlé, c'est l'autre. Attention. Manque de discipline, manque de maîtrise. Ça veut dire en fait que Dieu ne t'a jamais parlé. Tu es quelqu'un qui vit par tes émotions. Donc, il y a un travail à faire dans ta vie. Pour l'année du recommencement, là où Dieu veut te donner une partenaire ou un partenaire, assieds-toi. Assieds-toi calmement. Il vaut mieux tard que jamais. Donc, asseyons-nous et soyons calmes. Est-ce que ça va? Ça va bien? Est-ce que je vous aide? Alors, voilà des éléments qui me viennent à l'esprit et que j'aimerais vous partager, que souvent nous avons l'habitude de faire ou de dire. En général, vous allez voir des personnes qui vont toujours vous dire « Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. » Non, si ça m'est arrivé, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les circonstances, c'est mon père, c'est ma mère, ce sont les gens autour de vous. Vous savez, quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui assume. On a l'habitude de dire « Un gagnant, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Un perdant, c'est celui qui met toujours ses échecs sur les autres. » Mais pour l'année 2008, là, Dieu veut vous dire que c'est l'année de la responsabilité. On ne recommence pas sans assumer. Il faut assumer ses erreurs, il faut assumer ses échecs, comme il faut assumer ses réussites. L'année 2007, les autres années antérieures, il y a eu des choses, vous n'avez peut-être pas compris, c'est vrai, c'est peut-être pas de votre faute. Les circonstances de la vie vous ont peut-être conduit là. Mais pour le moment, puisque toute chose recommence, on prend un nouveau départ, il va falloir que nous reconsidérons nos responsabilités. Il va falloir que nous asseyons et que nous soyons capables de dire, ok, même si je n'ai pas compris, j'assume. Si j'ai échoué quelque part, j'ai échoué parce qu'il y avait ma part de responsabilité. Ok, aujourd'hui j'ai réussi, c'est là, mais je ne suis pas satisfaite, mais j'assume quand même. Peu importe ce qui m'est arrivé, d'accord, ça c'est arrivé sans que je ne le veuille, je n'ai peut-être pas été sensible, j'assume. Mais pour commencer, je m'assois. Ok, il y a eu un échec là, il y a eu une réussite là, il y a eu une inadvertance par ici. Je découvre qu'est-ce qui a causé l'échec, ce qui m'a mené à la réussite et qu'est-ce qui est à l'origine de l'inadvertance. Dès que je finis, je m'assois et je dis à partir d'aujourd'hui, ça ne se reproduira plus. Si c'est la réussite, je vais davantage plus haut. Si c'est l'échec, ça, là, ça ne m'arrivera plus parce que j'ai appris la leçon. Si c'est l'inadvertance, j'ai compris où j'ai été faible. Parce que l'inadvertance, souvent, les erreurs nous amènent à découvrir nos faiblesses. Donc, ça veut dire qu'il y a une faiblesse que Dieu veut mettre en lumière. Donc, dès qu'on découvre cette faiblesse, il faut être capable de dire, c'est ma faiblesse. Pas de dire, ah non, n'ayez pas honte de vos faiblesses. Parce que quand vous commencez à les assumer, c'est le début de votre délivrance. Oui, là, je reconnais que j'ai été faible. Ok, c'est pourquoi ce qu'on appelle l'inadvertance est arrivé. Ok, je fonce. Maintenant que je fonce, je ne vais plus sur cette ancienne base qui dit, ce sont les autres, mais à partir d'aujourd'hui, c'est moi. Parce que comme quelqu'un l'a dit, en général, même si on n'est pas responsable de la tête que l'on a, on est quand même responsable de la tête que l'on fait. N'est-ce pas? Même si on n'est pas beau, ce n'est pas un problème. On n'est pas belle, ce n'est pas un problème. Mais au moins, lorsqu'il nous arrive quelque chose, la mine que nous avons, ce n'est pas notre tête qui nous l'a dictée, c'est notre cœur. N'est-ce pas? Donc, on n'est peut-être pas responsable de la tête que l'on a, mais on est quand même responsable de la tête que l'on fait. On n'est pas peut-être responsable de nos faiblesses ou de ce que nous avons subi injustement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est responsable de la réaction à ce que nous avons subi. Donc, faisons attention. Donc, ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que pour l'année 2008, il n'y a plus c'est l'autre qui a fait. C'est plutôt c'est moi. Que ce soit vous, que ce ne soit pas vous, que ce soit par personne interposée, c'est vous. Parce que tout ce qui nous arrive en général, c'est nous qui le permettons. D'une manière ou d'une autre. Eleanor Roosevelt a dit une chose qui m'a beaucoup marquée. Elle a dit, on ne peut pas permettre à quelqu'un de vous salir si vous-même vous ne l'avez pas autorisé à vous salir. Et on ne peut pas dire que le diable nous a tués si on ne l'a pas autorisé à nous tuer. C'est trop facile. Tout ce qui nous arrive, on a quelque part notre part de responsabilité. Donc pour l'année 2008, il n'y a pas à dire que la responsabilité est reportée sur X. Pour l'année 2008, j'assume. Un peu comme la candidate de l'UPG. Hein? J'assume. On assume. UGDD plutôt. J'assume. Assumer. C'est passé l'année antérieure. À partir de 2008, ça devait être votre slogan pour l'année 2008. J'assume. Même si on dit vous avez copié les gens de l'UGDD, peu importe, vous savez dans quel sens vous dites, j'assume. Peu importe ce qui vous arrive, même si c'est douloureux, levez-vous et dites, j'assume. Au nom de Jésus. Ça fait mal, vous dites, j'assume. Vous perdez la maison, j'assume. Vous perdez le mari, j'assume. Vous perdez ceci, j'assume. Mais dans j'assume, là, c'est pour découvrir la faiblesse et prendre cette faiblesse, en faire une force pour récupérer ce que vous avez perdu. Donc, j'assume. Peu importe la position que nous prenons dans ce qui nous arrive, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu vous tient toujours pour responsable. Que l'attitude soit bonne ou mauvaise, Dieu vous tient pour responsable. Parce qu'il se dit, si vous avez agi comme ça, c'est parce que vous avez pris la peine de réfléchir. Donc, ce qui vous arrive, vous en assumez les conséquences. Une autre chose qu'il faudrait éviter pour cette année 2008, c'est de dire, je ne peux rien contrôler. C'est au-delà de mes forces. Qui a dit ça? La Bible dit, nous avons la liberté. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il y a une autre version qui dit, n'utilisons pas de notre liberté pour faire un prétexte qui voile nos méchancetés. Nous sommes libres de poser des actes. Mais n'utilisons pas cette liberté de poser des actes pour cacher notre méchanceté. Parce que tel m'a fait ça. Comme je suis libre de faire ce que je veux, j'ai la liberté de l'insulter et vous insulter. Après, il vous dit, non, je ne pouvais pas me contrôler. Excusez-moi, vous êtes des menteurs. Vous pouviez vous contrôler. Votre conscience vous a dit qu'il fallait vous contrôler. Le Saint-Esprit vous a dit, maîtrisez-vous. Mais vous avez voulu utiliser votre liberté comme étant un voile, un prétexte. Alléluia. La Bible dit, je puis tout par celui qui me... Une autre version dit, je peux tout en celui qui me rend puissant. Donc, on est capable de dominer en Dieu. Si nous lui donnons l'opportunité de dominer, lui, il va dominer. Mais en dehors de ça, nous ne dominerons pas. Donc, tout, nous pouvons le contrôler. Est-ce que nous comprenons ce soir? Qui veut contrôler? L'année 2008, là, c'est pas je ne connais pas où. Pasteur, je vous assure. Non, il n'y a pas de je vous assure. Premier réflexe, j'assume. Deuxième réflexe, je puis tout en celui qui me rend puissant. Ça va? Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte, et je vais vous dire, c'est une vérité, l'une des choses qui fait en sorte que nous ne réussissons pas à régler certains problèmes, c'est parce qu'au fond de nous, nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous voulons satisfaire notre chair. Mais la Bible dit une chose, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. 1 Corinthiens 6, 12. Attention, 1 Corinthiens 10, 23 dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas constructif. C'est la version Nouvelle Bible Second, NBS. Donc, faisons attention. Tout m'est utile, mais tout ne m'est pas constructif. Si la chair ne vous apporte rien, inutile d'aimer la chair. Prenez ce qui est constructif, même si ça vous dépend, ça se fait, c'est un souffre-douleur, mais prenez ce qui est constructif pour vous. Vous ne pouvez pas vouloir accomplir la volonté de Dieu et en même temps accomplir vos propres désirs. Dieu n'est pas là. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Soyons sérieux. Alléluia. Une autre raison qui nous amène à ne pas à pécher, c'est la lâcheté. On est lâche. On n'est pas capable de dire, je suis chrétien. On est lâche. Faisons attention. Mais Dieu dit, celui qui me nie devant les hommes, moi aussi je le nierai. Attention. Il y a des versets qui nous passent souvent là. Et c'est le genre de verset qu'on aime dire, l'homme de Dieu, qu'on n'aime pas lire là. Qu'on refuse de lire. Dieu dit, si tu m'honores devant les hommes, moi je t'honorerai. Vous voulez que Dieu vous honore? Ben, honorez-le devant les hommes. Quand vous n'honorez pas, vous agissez par lâcheté. Il ne vous honorera pas. Le bonheur et la grâce que vous recherchez, vous ne l'aurez pas. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Donc, quelquefois, nos échecs sont dus à notre lâcheté. Et un autre fait, le plaisir. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas toujours droit au plaisir immédiat, même si les autres autour de nous en profitent. Voilà un de nos mâles. Nous n'avons pas toujours besoin de jouir du plaisir. Même ceux qui sont autour de nous en profitent. Et ce qui nous fait souffrir, c'est le plaisir immédiat. Ce qui nous empêche de réussir, c'est le plaisir immédiat. C'est pourquoi, comme on veut tellement avoir ce plaisir, éprouver ce plaisir, on ne peut pas développer toutes les aptitudes que nous avons vues antérieurement. On ne peut pas. Je veux me marier automatiquement, il faut que tu te maries. À telle enseigne que tu es en train de perdre l'homme de ta vie, que Dieu a préparé pour toi, tu es en train de le perdre parce que tu veux te marier. Tu vas maintenant à la recherche des hommes. Tu vas à la recherche des femmes. Tu perds la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a une chose. Quand Dieu fait le choix, il sait pourquoi il fait le choix. Parce que la personne qui choisit pour vous, ou qui l'amène vers vous, en fait, en général, qui est déjà son choix, c'est la personne qui répond à vos aspirations profondes. Ce n'est pas la personne qui répond à vos aspirations physiques et superficielles. Donc, quand vous vous levez là, vous allez à la chasse, attention. Mais on va à la chasse, pourquoi? À cause du plaisir immédiat. On est un pied dedans, un pied dehors, parce qu'on veut vite devenir riche. Donc, on devient mafieux en Christ. À cause du plaisir immédiat. On est obligé de tricher, de s'endetter, de grave. Parce qu'on veut être belle comme les autres. Même si à la chapelle et au bord, tout le monde est belle. La beauté, ce n'est pas seulement la qualité du vêtement. C'est la propreté de ton vêtement. Si ton linge est propre, moi, en tant que pasteur, c'est tout ce que je te demande. Maintenant, je sais qu'avec la connaissance des Écritures, tu acquerras beaucoup de choses et ça te permettra de venir et d'aller à la dimension des autres. Mais ne va pas vite, va doucement. Qui va lentement, va. Donc, faisons attention. Rapidité du plaisir. Pour l'année 2008, c'est interdit. On va lentement et sûrement parce qu'on a des objectifs à atteindre. Le plus important, c'est que je sois propre. Même si ce n'est pas le même type de tenue que confort ou comment ça s'appelle, je ne sais pas trop. Non, c'est juste une illustration. Il ne faut pas aller là-bas. Commence par ta belle petite robe simple et propre. Ensuite, tu en auras une deuxième. Et ensuite, une troisième. Mais fais ça doucement. Ce n'est pas l'air de l'endettement. Va doucement. Parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Si tu t'endettes encore, tu vas faire comment? Et c'est là où on revient encore sur ce passage de 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas constructif. c'est pas en ayant une trop belle robe, vite fait, bien fait, que vous vous serez construit. C'est en agissant selon le cœur de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Nouveau recommencement, ça a des exigences fortes, hein? Changer, apprenez à changer. Même si c'est long et désagréable, changer. Ah, moi, je ne vais pas changer, c'est toujours comme ça. Dieu est dur, il n'y a que moi, il n'y a que Dieu, moi, que Dieu, à qui Dieu parle. C'est difficile, vraiment, dire qu'il n'y a que moi que Dieu voit. Mais il n'y a que toi. Tu veux qu'il voit qui? Mais il est obligé de te voir parce qu'il est obligé de te façonner. Donc, que tu le veuilles ou non, il te façonnera avec ou sans ton accord. C'est difficile, c'est long, c'est, ça fait mal. Mais maman, papa accepte. Dieu est bon. Levons-nous et prions. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Rappelez-vous toujours que Dieu est un bon Dieu. Je voulais juste vous dire quelque chose concernant la recherche du rapide. La facilité entraîne toujours la médiocrité. Il faut que vous reteniez ça. Oh, la jouissance rapide, maman, papa. D'accord, à quel prix? Mais sache que ça va toujours entraîner la médiocrité. Parce que Proverbe dit une chose, que les biens mal acquis ne profitent jamais. Tu peux monter avec un bien qui a été très mal acquis, mais cela va te ramener toujours plus bas. Donc, tu vas quitter de la gloire à la médiocrité. Parce que la facilité nous conduit toujours vers la médiocrité. Élevons nos voix et prions en fonction de ce que nous avons appris de Dieu ce soir.
En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.